comme un diamant aux mille facettes, Seigneur. Comme ton œuvre est magnifique, comme ton œuvre est grande, dès les temps anciens, Seigneur. Dès les temps anciens, le prophète Ésaïe avait prophétisé, rempli de l'Esprit de Dieu, annoncé ta venue, ta puissance, ta beauté, mais surtout ici, Seigneur, ton service, ton sacrifice. Je te prie, Père, de venir nous rencontrer ce matin, de venir te révéler à nous dans nos cœurs, de venir faire pénétrer ta parole dans nos cœurs, dans ces âmes souvent desséchées, Seigneur, tendues, stressées, angoissées par toutes les pressions de la vie. Ce matin, Seigneur, viens nous rencontrer et nous révéler Jésus-Christ davantage, toute sa beauté et sa majesté. Que l'œuvre de ton esprit soit manifeste au milieu de nous ce matin. C'est en Jésus-Christ que je te le demande. Amen. Tournez avec moi dans Matthieu, au chapitre 8, s'il vous plaît. Matthieu, l'évangéliste, s'est donné comme mandat, ou plutôt l'Esprit-Saint lui a donné comme mandat de nous faire connaître la personne de Jésus-Christ. Jusqu'à présent, un des aspects de Christ, une des facettes de ce diamant aux mille facettes, qui est Christ, une des facettes qui ressort le plus, c'est sa puissance et son autorité. À travers les derniers chapitres. Sa sagesse aussi. On a vu ensemble le sermon sur la montagne où la sagesse de Christ, sa perspicacité ressortait d'une manière très, très forte. Mais tout dernièrement, dans les chapitres, ce qu'on a vu, c'est sa puissance, son autorité. Matthieu veut la souligner. Il nous dit par exemple que Jésus a touché ce lépreux et l'a purifié. Et on voit l'autorité de Christ sur la maladie, sur l'impureté. Le centurion est venu à Jésus, a demandé que Jésus guérisse son serviteur d'une seule parole. C'était un miracle à distance. Dans la littérature de l'époque, c'était quelque chose d'exceptionnel. Qu'un guérisseur ait ce pouvoir de guérir même à distance, sur une parole, un commandement, le miracle s'accomplit. Maintenant, écoutez bien ce qui suit dans les versets 14 à 17, dans Matthieu 8. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis, elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu continue à nous exposer la puissance de Christ, son autorité. Ce n'est pas un simple guérisseur, un simple faiseur de miracles. Il est hors du commun. Il guérit le lépreux, le serviteur malade, la belle-mère de Pierre. Il va continuer à guérir le soir venu, malgré toute la journée. Il va chasser des démons, chasser des esprits impurs. Et tous les malades qu'on va lui apporter vont être guéris. C'est ça qui est mentionné, tous les malades. Et Matthieu va continuer à souligner comme ça la puissance de Jésus-Christ. C'est un guérisseur majestueux. C'est un faiseur de miracles très majestueux, car rien n'est au-dessus de la puissance qui émane de Christ. Absolument rien. Et donc, Matthieu va continuer à nous rapporter d'autres miracles dans ce qui va suivre ensuite. Par exemple, face à la tempête, Jésus va prendre autorité sur les éléments. Jésus va chasser encore des démons, nous dit-on, dans d'autres évangiles parallèles, une légion de démons. Jésus va continuer à souligner sa puissance. Parce que Matthieu veut démontrer que Jésus est le prophète qui avait été annoncé dès les temps anciens. C'est lui le Messie qu'on attendait. Et il va insister sur cette puissance. Maintenant, Christ est vraiment un diamant aux mille facettes. Christ n'est pas que le plus grand faiseur de miracles qui est venu. Jésus-Christ n'est pas que l'homme le plus sage. C'est très en vogue actuellement de considérer les paroles de ces prophètes sages des temps anciens. Jésus n'était pas que le prophète, l'enseignant le plus sage. Non, Christ est un diamant aux mille facettes. Et à travers les miracles de Christ, Matthieu veut nous faire découvrir une autre facette de Jésus. Maintenant, je fais une parenthèse. Si vous fréquentez cette assemblée depuis quelque temps, vous nous entendez parler de Jésus, 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 constamment. Et peut-être que vous voudriez venir dans une église pour entendre parler de Dieu, de la sagesse qu'il a à nous apporter, des principes de vie qu'il a à nous donner pour être heureux sur cette terre. Et vous entendez parler de Jésus, Jésus a fait ci, Jésus était là, Jésus par-ci, Jésus par-là. Il fut un temps dans ma vie où ça m'agaçait royalement d'entendre les chrétiens parler constamment de Jésus. J'ai commencé à fréquenter cette assemblée, j'avais peut-être 7 ans environ. Alors, je suis allé à l'école du dimanche, j'ai entendu toutes les histoires sur Jésus. Alors, moi, Jésus par-ci, Jésus par-là, je les avais toutes entendues. Mais il est venu un temps dans ma vie, où ça méritait d'entendre les chrétiens constamment me parler de ce Jésus. Et la raison était très simple. C'est que j'avais beaucoup entendu parler de Jésus, mais je ne l'avais jamais écouté. J'avais beaucoup entendu parler de tous les miracles qu'il avait faits, tous les principes qu'il avait apportés. Jamais je n'avais rencontré ce Jésus de Nazareth. Parce que j'avais entendu parler de lui, mais jamais mon cœur avait été disponible pour l'écouter véritablement. Et il y a une différence entre entendre et écouter vraiment. Mon épouse essaie de m'enseigner ça depuis 15 ans. Il y a une différence entre entendre les paroles qui sortent de la bouche de quelqu'un, entendre ce qu'une personne a à dire et l'écouter avec un cœur qui est réceptif. Il y a toute une différence. Écouter vraiment, c'est avoir cette disposition de cœur qui nous permet de recevoir ce que l'autre a à dire. Ça veut dire que mon intelligence est disponible, mais mes émotions aussi sont disponibles parce que mon cœur est ouvert. Je ne suis pas en train d'écouter le téléjournal. Je suis en train de recevoir le témoignage d'une vie. C'est ça, écouter. Et si ça vous agace constamment d'entendre des chrétiens vous parler de Jésus, Jésus par-ci, Jésus par-là, c'est probablement parce que vous n'avez jamais rencontré Jésus. Jamais vous ne vous êtes arrêté pour écouter ce que Jésus avait à vous dire. Ouvrez votre cœur et laissez votre cœur être pénétré par le message de alors, si vous voulez disposer votre cœur ce matin pour écouter vraiment ce que Matthieu veut nous dévoiler de la personne de Christ, vous allez découvrir ce matin beaucoup plus qu'un être tout-puissant, majestueux, un grand faiseur de miracles. Mais vous allez découvrir ce matin toute la beauté du ministère de Jésus-Christ, si vos cœurs sont disponibles pour écouter vraiment. Matthieu veut nous faire découvrir que Jésus est plus qu'un faiseur de miracles, qu'il a fait beaucoup plus que cela. Et pour le faire, il va nous donner son interprétation à lui de tous ces miracles que Jésus faisait. Parce que Matthieu regarde ça et puis il dit, OK, c'est ce prophète qui devait venir. Il y a une puissance qui l'accompagne. Il y a quelque chose d'incroyable en lui. Mais qu'est-ce que ça signifie, tous ces miracles? Toutes ces guérisons mènent à quoi? On l'a mentionné il y a quelques semaines, Matthieu n'était pas tellement intéressé aux miracles de Jésus. Matthieu était intéressé au message qu'il y a derrière les miracles de Jésus. Nous l'avons vu ensemble dans le miracle de la guérison du serviteur du centurion. Matthieu ne prend pas beaucoup de temps pour parler de ça. C'est comme si cette guérison-là, c'est un espèce de prétexte pour nous faire découvrir qui est Christ, quel est son message. Dans ce cas-là, c'est Matthieu qui va interpréter, c'est Jésus qui va interpréter ça. Ici, c'est Matthieu qui le fait. Matthieu nous donne son interprétation des guérisons que Jésus-Christ est en train de faire et il la donne au verset 17. Voici ce qu'il dit. « Et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. » Quand Matthieu a écrit cela, il faut réaliser que tout le ministère de Jésus était complété. Matthieu connaît la fin de l'histoire. Matthieu connaît le punch de l'histoire. Il sait où s'en allait Jésus-Christ, quel était son parcours et quel était le but de ce voyage. Et il sait que Christ va terminer sa course. Après avoir manifesté toute cette gloire, toute cette puissance, il va la terminer sur une croix. Et puis, ressuscité d'entre les morts. Lorsque Matthieu écrit ce commentaire ici, il interprète les miracles que Jésus a faits et il dit, voici pourquoi Jésus faisait ces miracles. Il nous donne son interprétation. Et ça vient du passage d'Ésaïe que Stéphane nous a lu tout à l'heure, Ésaïe 53. Normand, il y a quelques semaines, en nous parlant du lépreux, nous a donné une image que j'ai trouvée extrêmement belle. Je l'ai soulignée l'autre fois aussi. Il nous a dit, lorsque nous allons, simples humains, les gens normaux, lorsque nous allons toucher quelqu'un ou quelque chose qui est impur, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes contaminés par l'impureté. C'est vrai? Mais lorsque Jésus, lui, s'approche du lépreux et que lui vient toucher l'impureté, qu'est-ce qui se passe? L'impur devient pur. C'est différent de nous, n'est-ce pas? Très différent de nous. Matthieu vient enrichir cette image-là ici. Voyez bien ce que Matthieu fait. Matthieu nous dit, en nous citant le passage d'Ésaïe 53, que lorsque Jésus s'approche d'une personne qui est impure et qu'il le touche, non seulement l'impur est purifié, mais Matthieu nous dit comment ça se passe. Christ vient faire un échange. Il vient faire un troc avec nous. Et il vient, il touche l'impur, et il le purifie en prenant son impureté sur lui-même. C'est ça tout le ministère de Jésus-Christ. La purification du péché vient parce que Christ, avec toute sa sainteté, vient et nous touche et fait un échange avec nous. Il prend sur lui-même nos impuretés. C'est l'interprétation que Matthieu fait de ce passage. Et c'est pour ça qu'il cite Ésaïe 53, où on lit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Pour Matthieu, toutes les guérisons que Jésus opérait étaient en fait des images d'une guérison beaucoup plus grande que Christ allait apporter. Pour Matthieu, tous ces miracles qu'il faisait lorsqu'il venait toucher l'impur, c'était des images, c'était des métaphores d'une guérison beaucoup plus grande que Christ allait apporter. Au jour où Christ viendrait prendre sur lui, sur ses épaules, toutes les impuretés de nos péchés. Et dans un certain sens, même de la maladie. Si vous êtes familier avec les Saintes Écritures, vous savez que la maladie et la mort, ultimement, de manière générale, originent du péché. Au début, il ne devait pas en être ainsi. Au départ, nous devions être en santé et vivre éternellement. Et Dieu a maudit l'homme, Dieu a jeté cette malédiction sur l'homme à cause du péché. Maintenant, ce qui nous est enseigné dans la parole de Dieu, c'est qu'au jour du retour de Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? Christ va nous guérir de toute maladie, il va même nous guérir de la mort. Il va même nous guérir de la mort. Alors Matthieu nous dit que lorsque Jésus vient et qu'il guérit ces gens, c'est en fait une image d'une guérison beaucoup plus grande qu'il va apporter. C'est pour ça qu'il est dit dans Ésaïe 53, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Quand Matthieu a écrit le chapitre 8 de son évangile, il connaissait la fin de l'histoire. Et il savait très bien que Christ allait faire beaucoup plus que purifier des gens malades, que guérir une fièvre, mais qu'il allait venir donner sa vie sur la croix afin de prendre sur lui le châtiment de toutes nos impuretés, de tous nos péchés. Et c'est ça, c'est comme ça que Matthieu interprète ce passage. Et il savait que Dieu allait agréer ce sacrifice-là. Il savait que Dieu allait agréer le sacrifice parce que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est pour ça qu'il est en train de citer Ésaïe. Alors dites-moi quelque chose. Qu'est-ce qui est plus difficile? Guérir un paralytique? Chasser la lèpre, chasser une fièvre ou pardonner les péchés ou prendre sur lui nos péchés. Matthieu nous expose cet homme qui avait été annoncé dès les temps anciens par les prophètes, qui devait venir saint et pur sans tache, qui allait venir non seulement pour faire des miracles, non seulement pour faire des guérisons, mais pour venir prendre sur lui toutes nos impuretés. Matthieu nous dit que ces miracles que Jésus faisait, ces guérisons, étaient une image de cette maladie du péché que Christ allait prendre sur lui. Voyez-vous, lorsque Jésus rentre dans cette maison chez la belle-mère chez Pierre, puis qu'il voit la belle-mère qui est là, jusqu'à présent, on a vu Jésus dans sa gloire, un homme puissant, un homme majestueux. Même là, on voit les foules qui viennent à lui pour l'écouter. Et ça met l'accent sur la puissance de Christ. Tu veux comme t'asseoir, puis l'écouter, le rencontrer. Ce que Matthieu veut nous dire ici, c'est que Jésus-Christ est venu pour être aussi le serviteur de tous les hommes. Regardez bien ce que Jésus fait lorsqu'il entre dans cette maison. Et si vous prenez le temps cet après-midi d'aller lire les passages parallèles dans Marc et dans Luc, vous allez voir que Matthieu met l'accent sur certains aspects. Quand Jésus entre dans la maison de Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il voit la belle-mère de Pierre qui est malade. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va vers cette femme et il la touche. Jésus-Christ est un serviteur. Il est venu comme un serviteur. Dans sa première venue, Jésus-Christ n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il entre dans cette maison comme un serviteur et il vient et il guérit cette femme. C'est ça qu'il fait à ce moment-là. Il est venu la toucher et prendre sur lui ses maladies. C'est ça que Matthieu est en train de nous dire ici. Vous ne pourrez jamais servir premièrement Dieu avant qu'il ne vous ait servi lui-même. Vous ne pourrez jamais faire ça. Parce que nous sommes impurs. Parce que nous n'avons rien à offrir à Dieu. Et voyez ce que cette femme a fait en réponse après. Comment est-ce qu'elle a répondu au geste de Jésus? Elle s'est levée et elle a commencé à le servir. Jésus-Christ est entré dans cette maison, il a vu cette femme qui était malade, il s'est approché d'elle et il l'a servie. C'est ça qu'il a fait. Elle n'avait rien à lui offrir. Elle était malade. Comme vous êtes malade, comme je suis malade dans mon péché. Et j'ai absolument rien à offrir à Dieu. Cette arrogance et cette prétention qui dit, « Seigneur, je te donne tout. Seigneur, je te donne rien. » Prends-moi, prends-moi, touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur, afin que je puisse commencer à te servir. Est-ce que Jésus-Christ t'a touché? Est-ce que tu as entendu le ministère de Jésus-Christ, compris ce que Christ est venu faire sur la terre? Est-ce que Jésus-Christ s'est approché de toi et t'a touché pour te purifier? Parce qu'il est le seul qui peut le faire. Il est le seul qui peut prendre sur lui tes péchés et te purifier. Parce qu'il est le seul qui peut les prendre sur lui, ses péchés. Tous les autres hommes sont pécheurs. C'est un acte de foi qui t'est demandé. C'est un acte de foi, c'est de croire qu'il y a un homme qui est venu, voilà 2000 ans, qu'il a bel et bien existé, que c'est vrai que cet homme a existé, qu'il est venu, qu'il a fait des miracles. Et si jusqu'à présent, tout ce que tu as entendu de Jésus, c'était un homme sage, qui avait de la sagesse à m'apporter, tu as compris encore très peu de choses sur Jésus-Christ. Mais ce qu'il t'est demandé de faire, c'est cet acte de foi où tu vas croire que Jésus-Christ peut te purifier de tous tes péchés. Et Dieu a voulu nous donner pour preuve qu'il était bel et bien celui qui viendrait nous purifier de nos péchés en lui donnant cette puissance de faire tous ces miracles. Qu'est-ce qui est plus difficile? Guérir un paralytique ou dire « Tes péchés te sont pardonnés. » Un acte de foi t'est demandé. En fait, deux gestes à poser. Un geste de lucidité. Et ça ne demande pas beaucoup de foi. Il t'est demandé d'être lucide, honnête avec toi-même et avec ton cœur pour voir que tu es comme la belle-mère de Pierre. Tu es incapable de servir Jésus-Christ parce que tu es affecté par le péché. Le centurion l'avait compris dans le passage qui précède. Il avait très bien saisi cela. C'est pour ça qu'il a dit, « Maître, je suis indigne que tu rentres dans ma maison. Une seule parole de toi et mon serviteur va être guéri. Je suis indigne. » C'est cet acte de lucidité qui t'est demandé. Ça ne demande pas beaucoup de foi. Ça demande seulement d'être honnête avec nous-mêmes, de prendre le temps de s'arrêter, de considérer notre vie, de considérer mes voies, d'entrer en moi-même et de dire, « Est-ce que vraiment, ma vie n'est pas remplie de plein de bonne volonté et de tant d'horreur aussi, de tant de méchanceté, de vanité, de paroles dures, d'égoïsme. » Deux actes sont demandés. Parce que jamais tu vas prendre le temps de t'arrêter pour écouter Christ si premièrement tu n'es pas honnête avec ton propre cœur. Et si tu ne réalises pas que spirituellement, tu es exactement dans la même position que la belle-mère de Pierre. Jusqu'à ce que tu arrives là, tu vas essayer de t'impressionner toi-même, d'impressionner les gens autour de toi et d'impressionner Dieu. « Dieu, je vais t'offrir! Oh Seigneur, je vais t'offrir des choses! » Rien à offrir, parce qu'on est impur. Et deuxièmement, un acte de foi t'est demandé. Il t'est demandé de croire qu'il est possible que toutes tes fautes, tous tes péchés, tous les secrets de ta vie, tout ce que tu ne voudrais pas qu'il soit ouvert au grand jour, tout cela peut être pardonné, peut être purifié. Et ça, c'est un acte de foi. Choisir de croire que ce faiseur de miracles était beaucoup plus que cela. Et que s'il est mort sur cette croix, ce n'était pas un accident de parcours. Ce n'est pas parce que ça a mal tourné. Ce n'est pas parce qu'il est arrivé trop tôt pour son temps. C'est parce qu'il est arrivé dans le temps de Dieu pour accomplir toutes les prophéties. Et aller prendre sur cette croix tes péchés, si tu crois en lui. Et croire qu'au moment où tu t'humilies et tu viens à Jésus-Christ et tu dis, « Seigneur, touche-moi, prends sur toi toutes mes impuretés, tous mes péchés, croire que tu es purifié. Que tout ce que tu as de plus secret, Dieu le pardonne et l'efface. » Et c'est le commencement de la vie. Ta vie spirituelle ne fait que commencer. Parce qu'à partir de ce moment-là, ton appel, c'est de te lever et de servir Jésus-Christ. Voyez ce que cette femme a fait au moment où Jésus l'a touché. Elle a roulé son matelas, elle est sortie, puis est partie en vacances dans le sud. L'apôtre Paul résume très, très bien cette pensée dans 2 Corinthiens 5, 14 et 15. Écoutez bien ça. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Si Jésus-Christ t'a touché, tu as l'exemple parfait qui t'est donné dans ce passage. Lève-toi et sers Jésus-Christ. Si Jésus-Christ t'a redonné la vie, lève-toi et sers Jésus-Christ. Maintenant, Christ est parti. Il est parti au ciel et on est venu le servir ce matin. On est venu louer le nom de Jésus-Christ et on a servi Jésus-Christ en l'adorant, en le célébrant ce matin. Mais il est au ciel et sa mission demeure. Un tout petit peu plus loin dans l'Évangile de Matthieu, Jésus va dire au chapitre 9, verset 36 à 38, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. » Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Christ est au ciel, mes amis. Je n'ai pas le privilège de faire ce que la belle-mère de Pierre a fait. Oh, j'aurais aimé ça, par exemple. Aller préparer un cappuccino pour Jésus. Et ça, ça serait mon meilleur. Mais il est au ciel. Pourtant, sa mission demeure. Sa vision demeure. Et n'allez pas croire que parce qu'il est au ciel, son cœur n'est pas moins ému et touché par ces foules qui périssent sans Jésus-Christ. Il y a des millions de personnes autour de nous, littéralement, qui se meurent affectées par une fièvre spirituelle. Ils sont cloués dans un lit de mort spirituelle, sans espoir et sans avenir. Ils ne peuvent se louer et se lever et servir Christ si Jésus-Christ t'a touché. Si Jésus-Christ t'a touché et t'a purifié, lève-toi et serre-le de mille et une manières à celui qui aura donné du pain et de l'eau au plus petit d'entre mes frères. C'est à moi qu'il l'aura fait, nous dit Jésus. Entre dans la mission. Lève-toi et serre s'il t'a touché. De toutes sortes de manières. Va servir la pouponnière. Va acheter des billets de Luc Dumont. Trouve des gens. Sors dans la rue. Invite du monde que tu ne connais pas à un concert. Dis-leur, j'ai des billets pour toi. C'est un gars qui donne des concerts partout dans le monde. En passant, juste pour pas que tu paniques, c'est chrétien. Mais viens-t'en. N'importe qui. Si tes amis à qui t'en parles ne veulent pas l'entendre, bien, va à l'extérieur. C'est pas ça que Jésus a dit. On les a invités, ils ne voulaient pas. On va aller vers les autres, tant pis. Téléphone un frère, une sœur qui ne vient pas à l'église depuis quelques semaines. Lève-toi et serre-le. Va vers lui, appelle-le, prends de ses nouvelles. Il ne reviendra pas à l'église si tu ne vas pas le chercher. Il ne remettra pas le pied dans l'église si tu ne vas pas prendre un café avec lui pour le supplier de marcher avec Christ. Mais lève-toi si Jésus-Christ t'a touché et serre-le parce qu'il est un sauveur merveilleux qui est venu et qui a donné sa vie pour nous et qui a pris sur nous toutes nos infirmités, tous nos péchés. On va le louer ensemble. Seigneur Jésus, je veux t'adorer, te rendre grâce, Seigneur, parce qu'un jour, tu t'es approché de moi, j'errais dans ma folie. Frappé d'une fièvre spirituelle, Seigneur, qui me rendait fou. Fou parce que je méprisais tes bontés, je méprisais tes grâces. J'avais entendu parler de ce Jésus de Nazareth, mais trop insensé pour m'arrêter et l'écouter me parler. Je ne te cherchais pas, Seigneur. J'avais l'esprit confus comme cette femme emportée par cette fièvre. J'avais l'esprit confus, Seigneur. Mais dans ta grâce, Seigneur Jésus, dans ta bonté, toi qui es majestueux, toi qui faisais tous ces miracles, tu n'es pas resté dans ton ciel loin de moi. Tu es entré chez moi, Seigneur, dans ma vie. Et tu m'as touché, Jésus, prenant sur toi toutes mes infirmités, tous mes péchés, Seigneur. Je te bénis pour cela. Je te bénis, Seigneur, pour ton amour pour moi, pour la grâce que tu as manifestée pour moi. Et Seigneur Jésus, je te prie de saisir cette assemblée du même esprit qui a saisi cette belle maman, qui a fait la chose la plus naturelle au monde, elle s'est levée et a commencé à te servir. Ô Seigneur Jésus, raffermis nos membres, éclaire notre intelligence, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. et nous estimons que si nous vivons, Seigneur, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen.